carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christa Leuc.
Bonjour, bienvenue à Carrefour des Arts, dans notre série sur l'art nouveau et son importante influence dans toute l'Europe. Brigitte Ducoussomao, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle pour nos auditeurs que vous êtes docteur et professeur d'histoire de l'art, commissaire d'exposition et spécialiste, entre autres, de l'art nouveau. C'est toujours avec le plus vif intérêt que nous suivons votre exposé. Et cette fois-ci sur les grandes figures qui ont révolutionné l'art autrichien au tournant du XXe siècle. Hoffmann, Klimt et les autres. Vienne, la capitale de l'Empire austro-hongrois, est alors en pleine ébullition. La population de la ville a doublé en 20 ans, passant de 1 à 2 millions d'habitants. On y parle toutes les langues et l'activité culturelle foisonne. L'esprit académique, toutefois, maintient encore l'architecture dans une tradition classique. Et nous étions donc avec vous au mouvement de la sécession, porteur d'un souffle nouveau que l'Allemagne ressentait déjà depuis quelques années.
En effet, à la veille du XXe siècle, apparaît en Europe le désir de créer un art de synthèse des différentes disciplines artistiques. Partout fleurissaient des discours sur l'unité de l'art et la nécessité de briser les limites entre les différents genres. L'érosion des frontières entre art majeur et art mineur a été initiée en Autriche par Joseph Hoffmann, qui fut avec Gustav Klimt le fondateur de la sécession en 1897 et le directeur des ateliers viennois à partir de 1901. Cet aplanissement des différentes disciplines artistiques fut particulièrement bénéfique pour les arts décoratifs et l'architecture, mais a permis également aux peintres de pousser plus loin leurs expériences plastiques.
Oui, leur expérience plastique fortement motivée par une contestation du conservatisme culturel de l'époque, aussi bien sur le plan idéologique qu'artistique. Et c'est ce que nous pourrons constater d'ailleurs en faisant une étude plus approfondie de quatre artistes majeurs de ce mouvement sécessionniste à Vienne, Joseph Hoffmann, Gustav Klimt, Egon Schiele et Oskar Kokoschka. Alors commençons par l'architecte de la sécession, Joseph Hoffmann, si vous voulez bien.
Joseph Hoffmann est né en 1870 à Prinitz en Moravie. Il est resté toute sa vie très attaché à son pays natal, aux arts et aux traditions des paysans moraves. Et cette précision n'est pas inutile, car elle nous permet de mieux comprendre le style de cet architecte et son goût pour le vernaculaire. Ses études à l'Académie de Vienne lui permirent de rencontrer le principal architecte de cette ville, Otto Wagner, qui devint son professeur et son mentor. Le prix de Rome lui fut décerné pour son projet de fin d'études. Il put ainsi découvrir en Italie le classicisme des temples grecs et l'architecture traditionnelle, notamment celle de l'île de Capri. Pour Joseph Hoffmann, une maison devait être d'un seul tenant. L'extérieur devait être le révélateur de l'intérieur. Et ce fut selon ce principe que fut édifié entre 1905 et 1911 le palais du banquier Stocklet à Bruxelles, que l'on peut considérer comme le grand œuvre d'Hoffmann. Klimt y a réalisé une peinture murale très inspirée par les mosaïques byzantines de Ravenne. Chaque détail fut pensé, depuis les poignées de porte jusqu'aux ustensiles de cuisine, en passant par les fleurs, le décor et l'ordonnance du jardin ou de l'office. Le banquier Stocklet avait laissé carte blanche aux artistes, ce qui permit à Joseph Hoffmann de réaliser dans cet hôtel particulier sa vision d'une œuvre d'art total.
Oui, alors art total, qui est donc le fameux Gesamtkunstwerk, un terme allemand qui est entré tel quel dans le langage de l'histoire de l'art. Et l'idée vient, me semble-t-il, du romantisme. C'est Richard Wagner, le premier qui exprimait cette vision d'une fusion de tous les arts, qui devait solliciter tous les sens du spectateur, la vue, l'ouïe, mais aussi l'odorat, voire même le toucher. Et c'est un autre Wagner, l'architecte Otto Wagner, dont vous venez de parler, à Vienne, qui fut à l'origine d'une conception de l'habitat tout à fait nouvelle et qui trouve donc son modèle par excellence dans ce palais du banquier Stocklet.
Et pour cet hôtel particulier, et d'une manière plus générale, Hoffmann a créé des meubles angulaires, noirs et blancs, ou tournés en courbe, en bois naturel ou légèrement teinté, et tout cela grâce au procédé de cintrage du bois par la vapeur, découvert par les frères Tonnet au milieu du XIXe siècle. Joseph Hoffmann faisait exécuter tous ses travaux par les Wiener Werkstätte, ces fameux ateliers d'art et d'artisanat qui avaient été inspirés par le mouvement anglais Arts and Crafts. Hoffmann avait été soutenu dans cette entreprise par le riche industriel et collectionneur Fritz Ferndorfer, qui admirait cette manière de travailler et les travaux issus de ses ateliers. Ces ateliers furent fermés en 1933. Hoffmann s'est consacré ensuite à l'enseignement jusqu'en 1936. Oscar Kokoschka, Egon Schiele et Le Corbusier furent ses élèves les plus brillants. Ces jeunes artistes furent donc formés en pleine effervescence sécessionniste dans ces ateliers de création où travaillaient une centaine d'artistes menés par l'idée directrice, mais je laisse Christa prononcer ce nom compliqué pour moi.
Donc l'idée directrice de Gesamtkunstwerk, l'art total.
Après la guerre de 39-45, Hoffmann s'est consacré à l'écriture d'essais théoriques et il est mort à Vienne en 1956. Il a fait de cette ville la cité phare des débats esthétiques et a laissé une empreinte indélébile sur l'art du XXe siècle. Son style sobre et très épuré dans le mobilier et les arts du métal a eu une influence considérable sur les jeunes générations de designers.
Voilà donc pour Hoffmann, l'architecte viennois fondateur de la sécession viennoise avec Gustav Klimt. Nous connaissons tous ces fameux tableaux aux formes courbes et enlacées et aux mosaïques dorées. Mais l'homme Klimt, pourriez-vous nous en faire le portrait, Brigitte Ducos-Omao?
Le peintre Gustav Klimt fut sans conteste la figure la plus emblématique de la sécession viennoise.
Oui, il était même considéré et nommé le Messie par ses congénères sécessionnistes.
C'est tout dire. Il était le fils d'un orfèvre originaire de Bohême. Il est donc né à Baumgarten, à côté de Vienne, en 1862. Il est entré à 14 ans à l'École nationale des arts et des métiers et il était encore étudiant lorsqu'il a reçu ses premières commandes d'État. Il avait créé d'ailleurs, avec son frère Ernst et un ami de l'école, Frank Matsch, une petite société, une sorte d'atelier de décoration, la Kunstkompanie. La peinture de Klimt est à cette époque très académique, proche de la peinture de Bouguereau ou de celle d'Alma Tadema. Et cette œuvre fut très appréciée. Klimt fut d'ailleurs récompensé pour ce travail de la Croix d'or du mérite par l'empereur François-Joseph.
Ah ben, cela devait largement contribuer à sa célébrité. On dit d'ailleurs que Klimt représentait dans ce vaste portrait de groupe quelques personnages de l'élite viennoise haut en couleur, par exemple la maîtresse de l'empereur, l'actrice Katharina Schratt, ou le chirurgien distingué Theodor Billroth, ou encore le futur maire Karl Lueger. Une peinture miroir en quelque sorte de la société viennoise.
Oui, une peinture dans laquelle la société viennoise se reconnaissait. En 1892, la mort de son frère Ernst et de son père a entraîné la dissolution de la Kunstkompanie. Klimt ne s'entendait déjà plus très bien avec Frank Matsch, qui était trop attaché à la peinture d'histoire, considérée alors comme le grand genre. Et la peinture historiciste était dépassée. Klimt sentait le besoin de s'exprimer différemment et voulait insuffler à sa peinture une vie nouvelle.
Il est donc arrivé à un moment de rupture. Et comment ce tournant fut-il accueilli par la Vienne ambivalente, souvent frivole, mais tout de même très formaliste?
Effectivement, en 1894, Klimt a reçu une commande du ministère de l'Intérieur qui le chargeait de peindre trois allégories pour le plafond de la salle d'honneur de l'université. La philosophie, la médecine et la jurisprudence. Klimt a mis un certain temps pour exécuter ses œuvres. Et lorsqu'il a présenté ses œuvres en 1897, la réception fut plus que houleuse. L'érotisme et la liberté d'expression plastique contenue dans ses allégories a provoqué un véritable scandale. Une pétition, signée par 97 professeurs, demandait le retrait immédiat des œuvres de Klimt au ministère de l'Éducation nationale. Ses œuvres furent brûlées en 1945 par le régime nazi, qui considérait Gustav Klimt comme un artiste dégénéré. L'existence de ses œuvres est attestée par les études préparatoires qui furent sauvées et qui sont actuellement conservées à l'Albertina. D'un point de vue formel, Klimt renonçait déjà, dans toutes ses œuvres vilipendées par les universitaires viennois, à la profondeur. Il simplifiait les formes, accentuait les contrastes entre lignes droites et arabesques, agençait sa peinture comme un artisan en marqueterie, en imbriquant fond et forme. Cette exclusion de la scène artistique conformiste de Vienne a permis à ce peintre de précipiter son évolution. Il a démissionné de la Société des artistes viennois et a fondé en 1897, à l'âge de 36 ans, le mouvement sécessionniste. Dès lors, il a adopté une attitude résolument provocatrice et iconoclaste. Drapé dans une robe de bure ou un caftan bleu sous lequel il était nu, réfugié dans son atelier, il préférait la compagnie des femmes et celle des chats à celle des salons. Ce fameux caftan bleu que ses admirateurs Oscar Kokoschka et Egon Schiele ont adopté plus tard par identification au maître incontesté de l'art nouveau. De cette époque datent aussi des œuvres étonnantes d'audace, comme la musique réalisée en 1895, qui est conservée à la Nouvelle Pinakothèque de Munich. Et dans cette allégorie de la musique, Klimt annonçait sa nouvelle vision de l'art, affirmait son goût pour l'ornement, abolissait les lois de la perspective, aplanissait la narration et, surtout, introduisait sa non-couleur favorite, l'or.
Klimt, un style qui s'affirme, la profusion de l'or, et Klimt est à la fois admiré, mais aussi très décrié.
Tout à fait. Cette société bien-pensante de Vienne, constituée de bourgeois, de commerçants et de banquiers qui fustigeaient publiquement l'érotisme contenu dans les œuvres de Klimt, n'était pas un paradoxe près et achetait à prix d'or ces mêmes œuvres ou commandait à l'artiste le portrait en pied de leurs épouses, transformant ces dernières en femmes fatales pour l'éternité.
Vous disiez donc, Brigitte Ducoussomao, que dans l'histoire des arts et des lettres, il en a souvent été ainsi, toute peinture et musique nouvelle provoque un trouble.
Oui, toute peinture et musique nouvelle provoque un trouble parce qu'elle pose comme postulat conditionnel l'élimination préalable du poncif auquel nous étions habitués et qui nous semblait jusqu'alors la réalité même sur laquelle reposait notre vision du monde. La société très corsetée de Vienne s'est lourdement trompée en stigmatisant la peinture de Klimt. En 1898, lors de la première exposition de la Sécession, Klimt a accroché 16 tableaux qui ont séduit le public. À Dresde, l'allégorie de la philosophie a reçu la médaille d'honneur. Présentée à l'exposition universelle de Paris en 1900, cette œuvre fut admirée et l'on attribua au peintre encore une médaille d'or.
Oui, Klimt a encore modifié sa manière de peindre et a opéré une seconde rupture avec le mouvement sécessionniste.
Pour la comprendre, il nous faut évoquer cette frise de Beethoven présentée dans le pavillon de la Sécession pour l'exposition de 1902, qui était la 14e exposition des sécessionnistes. Cette exposition était articulée autour de l'emblématique figure tutélaire du musicien Ludwig van Beethoven, dont Max Klinger avait réalisé une sculpture monumentale. Cette exposition fut une véritable démonstration de ce qu'était une œuvre d'art totale. La scénographie tripartite d'Hoffmann et Olbrich y était ingénieuse, les œuvres hardies, et le soir du vernissage, Gustav Mahler et ses musiciens de la Philharmonie de Vienne firent résonner fortissimo le final de la 9e symphonie de Beethoven, l'hymne à la joie de Schiller. Cette frise de Klimt évoquait la 9e symphonie de Beethoven. Elle racontait les errances et les souffrances de l'homme pour accéder au bonheur. Trois grandes parties illustraient ce programme très philosophique. Les souffrances de la faible humanité, les puissances ennemies, l'aspiration au bonheur.
Cette frise est ornée d'une citation de Klimt « L'apaisement au bonheur trouve son apaisement dans la poésie ».
Et cette fresque s'achevait sur une note optimiste et une image idéale. Dans une chapelle de fils d'or parsemée de fleurs, se tient un couple, nu, enlacé, fermé au monde, absorbé dans le baiser de l'éternel amour que Klimt a nommé le baiser au monde entier.
Cette fresque était aussi un manifeste de l'art moderne tel que Klimt l'envisageait, n'est-ce pas ?
Cette frise était peinte à la caséine, sur des lattes de bois, recouvertes de stuc et de feuilles d'or, déposées par application, rehaussées de pastel, incrustées de nacre et de pierres semi-précieuses. Le sujet et la matérialité du tableau donnaient une dimension spirituelle très très forte à cette allégorie philosophique de 34 mètres de long. Et dans cette œuvre, Klimt a tempéré ses formes. Il a aménagé des silences comme en musique. Il a fait entrer la tridimensionnalité dans le tableau en deux dimensions par l'insertion de matériaux d'habitude réservés aux sculpteurs et aux ornementistes. À travers cette œuvre, Klimt a mis en lumière des thèmes iconographiques qui lui étaient chers et qu'il a développés plus en détail ultérieurement. La femme, la nudité, la folie, le baiser, le sexe, la maladie, les figures mythologiques et les écritures.
Mais cette composition monumentale, pourtant assez lisible et limpide, déconcerta une fois encore le public et certains membres même de la sécession furent choqués par la surabondance des symboles sexuels.
Cette hostilité de certains sécessionnistes puritains a permis à Klimt de rompre avec ce mouvement et de se dégager de la pesanteur d'une idéologie de groupe. Il a enfin pu appliquer personnellement ce précepte sécessionniste inscrit en lettres d'or sur le fronton du pavillon de la sécession. À chaque époque son art, à chaque art sa liberté. Il peint alors en 1903 les trois âges de la vie conservés à la Galerie d'art moderne de Rome. Une toile intransigeante et magnifique dans laquelle Klimt expérimente la division de la touche, technique qu'il a admirée chez Theo van Rieselberghe, puis le baiser qui se trouve actuellement au Belvédère de Vienne et Judith qui a été peint en 1909 et qui est actuellement conservé à la Capesaro à Venise.
Et n'oublions pas l'importante activité de dessinateur, notamment de dessins érotiques dans ces années-là aussi.
C'est également entre 1900 et 1916 que Klimt s'est intéressé au paysage. Il a renoncé aux études préparatoires, privilégié pour ses toiles planéristes le format carré, et nous pensons bien sûr à ce lac turquoise et rose sur la Terzée, qui est au Leopold Museum de Vienne, et aussi au rouge et vert champ de coquelicots conservé à New York au Metropolitan Museum.
Oui, pour n'en citer que quelques-uns, oui.
Et Klimt simplifie de plus en plus les formes au profit de la structure et du rythme, et dans les dernières toiles comme la Vierge, peinte en 1913, que l'on peut admirer à Prague, à la Narodni Gallery, Klimt peint de plus en plus simplement. Le 11 janvier 1918, Gustav Klimt est victime d'une attaque cérébrale et il meurt des suites de cette attaque le 6 février 1918.
Et Oskar Kokoschka, cet enfant terrible de cette époque, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
Oskar Kokoschka est né en Autriche, lui aussi, le 1er mars 1886, à Pöschlarn, sur le Danube. Son père était bohémien et sa mère styrienne. Il a suivi l'école des arts et des métiers de Vienne de 1905 à 1909 et il a collaboré, lui aussi, au Wiener Werkstätte. Il a commencé par peindre, puis s'est essayé au théâtre, à la poésie, à la lithographie. C'est un artiste en marge qui fait cavalier seul et n'appartient à aucune mouvance. Sa première exposition personnelle à Berlin fut un échec relatif. Son travail fut approuvé par ses pairs, mais rejeté par le public. Furieux de cet accueil, Kokoschka s'est rasé la tête en signe de mortification.
Mais il me semble que son nom fut tout de même remarqué par la critique lors de cette exposition, n'est-il pas vrai ?
Remarqué ne signifie pas plébiscité. Kokoschka fut très éprouvé par la réception de ses œuvres par le public. Le personnage est un écorché qui souffre, qui hurle quand il est blessé. L'autoportrait rouge de 1913 est tout à fait parlant. Kokoschka s'y tient de trois quarts. Il a le visage long et souffreteux des Madones du Gréco, un peintre qu'il admirait.
Oui, c'est un homme entier et fragile. Que ce soit en art ou en amour, il n'aspire qu'à l'absolu, Kokoschka.
Et pourtant, sa personnalité séduit cependant Alma Mahler, qui devient sa maîtresse de 1911 à 1914. Fou de douleur après leur rupture, il s'engage dans l'armée avec le secret espoir de se faire tuer à la guerre. Blessé très grièvement à plusieurs reprises et souffrant de troubles de l'équilibre, il fit de fréquents séjours dans les hôpitaux et en sanatorium. Et dès la fin de la guerre, il enseigne à l'Académie des Beaux-Arts de Dresde. Il renonce à sa carrière de professeur grâce à l'argent que lui procurait son marchand de tableaux. Au cours de l'un de ses voyages en 1934, il rencontre à Prague Olga Palkovska qui l'épouse. En 1938, alors que tout semble aller pour le mieux dans sa vie et dans son métier, il est obligé de s'enfuir en Angleterre car son travail était alors considéré comme l'émanation d'un art dégénéré par le régime nazi. 417 de ses toiles furent décrochées des murs des musées et brûlées. En exil en Angleterre, il survécut en peignant des portraits et en faisant des caricatures pour les journaux et la justice. À la première Biennale de Venise en 1947, une salle lui fut consacrée. Cette exposition lui rendit la célébrité. Et une chaire de professeur à Salzbourg lui fut proposée en 1953. Il réalisa encore cette même année les décors de deux opéras, La Flûte enchantée de Mozart et Le bal masqué de Verdi. En 1971, il rédige son autobiographie et il est mort en 1980 à Montreux, en Suisse.
Des quelques mots du style de Kokoschka peut-être encore.
Pour évoquer la force de sa peinture et l'intensité du sentiment amoureux chez Kokoschka, j'ai choisi de parler du double portrait d'Oscar Kokoschka et d'Alma Mahler. Ce double portrait que le poète George Trakl avait si joliment intitulé « La fiancée du vent ». Dans ce tableau, Kokoschka a placé ses personnages dans un décor dématérialisé, irréel. Les deux personnages flottent comme dans un aquarium. Ils sont endormis, dans un rêve. Autour d'eux, tout bouge, vacille, explose, avec des coups de pinceau violents, tournoyants, épais, compacts. Le monde est hostile et l'amour éternel. On peut sentir chez ce peintre l'héritage d'Albrecht Dürer, de Grunewald, dans cette dureté et cette tension du trait. À partir de 1926, le peintre s'est consacré à la peinture de paysages. Il a abandonné petit à petit sa façon expressionniste de peindre, sa touche s'est allégée, sa palette s'est colorée et s'est éclaircie également, comme dans le pont Charles à Prague qu'il peint en 1934. Son geste est moins fiévreux, plus apaisé, mais il demeure toutefois assez saccadé.
Oui, dans la lignée des peintres tourmentés en cette fin du XIXe siècle. Ce qui nous conduit à Egon Schiele.
Egon Schiele est né le 12 juin 1890. Il a grandi dans un petit village autrichien de Thuln, entre une grande sœur Mélanie et une plus petite Gertie, dont il a fait très tôt son modèle. Son père, atteint du mal français, travaillait au chemin de fer. Il était sujet à de violentes colères provoquées par l'évolution de la maladie dans sa phase terminale et voyait dans ce fils doué pour le dessin un futur ingénieur. Mais le jeune homme s'ennuyait à l'école et ne s'intéressait qu'au dessin ou à la calligraphie. Il fuyait la maison pour ne pas voir la maladie et la mort s'emparer de son père, partait dans les champs faire des croquis de la nature.
Oui, un père dont il était très très attaché et dont la mort a laissé en lui un grand trouble.
Un grand trouble et surtout qu'on va retrouver dans les images d'Egon Schiele. Il a rencontré à 14 ans le peintre Ludwig Karl Strauss, qui l'initie à l'impressionnisme et lui fait découvrir le Jugendstil. Ce professeur lui a également appris à travailler en larges aplats colorés. Schiele fut reçu à 16 ans à l'école des Beaux-Arts de Vienne. Mais il est très déçu par l'enseignement. Il passait son temps à dessiner d'un seul trait, rapide et continu, les nus féminins et masculins durant les cours d'anatomie. Avec un groupe de jeunes artistes, il crée en 1908 le Neue Kunstgruppe pour lutter contre les règles de l'Académie et organise sa première exposition de peinture à la galerie Pisco en 1909. Sa rencontre avec Klimt a été décisive car Klimt a admiré immédiatement la liberté d'expression de Schiele et l'a encouragé à peindre de cette façon libre, large et osée.
Oui, pourriez-vous nous dire quelques mots de son caractère et de son art, de son style?
Il a vécu 4 ans avec un ancien modèle de Klimt qui devint son modèle et sa maîtresse. Elle apparaît dans presque tous les dessins érotiques que Shelley a réalisés entre 1910 et 1914. Elle s'appelait Valérie Neusil, Shelley l'a nommée Vali. En 1912, Egon Shelley est condamné pour outrage aux bonnes mœurs, suspecté d'attouchement sur mineurs et emprisonné durant 24 jours. Il a traduit cette douloureuse expérience en équivalence plastique dans un autoportrait à l'aquarelle et au crayon de prisonnier qu'il a réalisé la même année. En 1915, suivant l'exemple de sa sœur, il se marie avec une jeune fille de bonne famille, Edith Arms. Elle ne comprend pas les exigences de l'artiste et le couple ne communique pas bien.
Elle était pourtant sa muse dans ces années-là.
Elle était sa muse, mais elle l'étouffait par son amour et pourtant il était touché par sa candeur. Le portrait de cette jeune femme qui se trouve à l'artothèque de La Haye, que Shelley a réalisé l'année de leur mariage, la montre perdue, gauche, candide au milieu de ses vêtements à rayures qui tournoient autour d'elle. Et cette jeune femme a un destin pathétique puisqu'elle contracte la grippe espagnole alors qu'elle est enceinte de 6 mois et elle meurt dans les bras de son mari le 28 octobre 1918. Shelley meurt 3 jours plus tard, le 31 octobre, de la grippe espagnole. Il avait 28 ans. Hypersensible, neurasthénique et égotique, Egon Shelley a été obsédé par le sexe et la mort. Il aimait provoquer. Il a fait une peinture sans complaisance, abordant le nu comme un médecin légiste, découpant au scalpel la chair sans pathos. Ses dessins érotiques pessimistes et crus sont teintés de cruauté et déclenchent parfois chez le spectateur un certain malaise.
Oui, il faut dire que du temps de Shelley, la sexualité fut un thème tout puissant. C'est l'époque où les expériences du professeur Charcot sur les hystériques à la fameuse Salpêtrière à Paris soulèvent beaucoup de curiosité. Et Shelley a sûrement eu connaissance de photos de maladies hystériques surpris dans des poses assez provocantes. Mais il me semble que ce serait s'arrêter seulement à l'aspect extérieur. Peut-être pouvons-nous voir au-delà. Shelley est évidemment un grand souffrant. Ses nus et ses autoportraits nus traduisent sans doute la vulnérabilité de l'homme exhibé, devant l'existence, devant le monde, là où on ne voit d'habitude que de la provocation.
En effet, l'œuvre d'Egon Shelley touche à l'expérience intime, la sienne, qu'il exhibe. Elle n'a pas d'ailleurs un caractère universel et ne transmet qu'un message subjectif, le sien. Shelley est malade psychologiquement. Ses portraits le montrent, grimaçant, comme un fou en camisole. Ses longues mains maigres, presque végétales, occupent une place centrale dans tous ses tableaux et deviennent presque des entités autonomes, comme dans l'autoportrait aux doigts écartés de 1911, conservé au musée d'histoire de sa ville de Vienne.
Que diriez-vous pour conclure cette émission sur l'art viennois du dernier quart du 19e siècle et du début du 20e, Brigitte Ducoussot-Mao?
Eh bien, je dirais que malgré les différences stylistiques de ces trois artistes peintres, on peut remarquer la permanence de certains thèmes qui hantent la communauté artistique viennoise. L'érotisme, le vampire, la femme fragmentée, les œuvres de Klimt, de Kokoschka et de Shelley ont parlé de ce dont on ne doit pas parler. Des frôlements, des enlacements, des baisers, des douceurs, des violences, des rêves érotiques, de la mort. Ils ont refusé de désamorcer la charge sexuelle de leur peinture, montrant les corps nus dans une crudité radicale. Ils ont obligé le spectateur à changer son regard sur le monde en les mettant dans une situation inconfortable de voyeur découvert. Ils réussirent à instaurer une véritable relation triangulaire entre l'artiste, le sujet peint et le public et firent comprendre à leurs contemporains que la peinture avait désormais autre chose à dire, qu'elle ne pouvait plus être uniquement une œuvre décorative destinée à relater l'histoire ou à orner les murs des édifices privés ou publics. C'est avec ces artistes que commence l'art moderne. Et puis, surtout, pour en finir avec une idée reçue qui semble persister encore en ce début du XXIe siècle, Vienne n'était aucunement à cette période-là une ville en pleine décadence, mais bien au contraire, le creuset où se forgeait la modernité.
Brigitte Ducoussot-Mao, merci de nous avoir conduits un peu plus avant dans la connaissance de cette merveilleuse époque.